Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Panique 105.4 avec l'équipe d'Elles en parlent encore, une émission de Vie Féminine Bruxelles. Alors ce matin, nous sommes avec Léa,
bonjour.
Bissi,
hello.
Elsa,
salut.
Julie à la régie.
Salut, et Alex.
Et moi-même, voilà. Alors pour commencer, on voulait d'abord embrasser fort Valéria, donc notre collègue et notre amie, qui est partie vers d'autres aventures professionnelles et qui donc du coup ne fera plus partie, en tout cas pour l'instant, de l'équipe d'Elles en parle encore. Alors nous avions terminé 2019... Nous avions terminé 2019 avec un cycle sur les corps féminins. Après avoir évoqué la figure de la sorcière et pourquoi elle est importante dans le féminisme actuel, nous avons parlé des identités de genre et des orientations sexuelles, du plaisir féminin et des règles, et de toutes les difficultés, tabous et maladies qui y sont liées. Alors ces trois émissions montrent que le corps des femmes est encore aujourd'hui perçu et traité comme un objet, il est invisibilisé, et que les femmes aussi en sont désappropriées. Mais c'est à travers notamment sa réappropriation que passera l'émancipation des femmes. Voilà pourquoi nous y avons consacré trois émissions. Alors aujourd'hui, nous allons vous partager nos coups de cœur, nos coups de gueule pour l'année qui vient de se terminer. Cela nous paraît important de partager ce qui change, ce qui fait du bien, mais aussi nos colères et nos coups de rage. Et nous allons commencer cette émission avec l'éjaculation féminine, car nous n'avions pas réussi à terminer cette chronique lors de la dernière émission sur le plaisir féminin. Donc ça nous paraissait être une bonne occasion. Et puis ça prolonge aussi la thématique des sexualités. Et après tout, on se dit que éjaculer pour la première fois, ça pourrait être carrément un joli coup de cœur pour l'année. N'est-ce pas Léa ?
Bien sûr. Ah, que j'étais fière. Je regardais remplie d'émotion, presque avec le regard d'une mère qui regarderait son enfant faire ses premiers pas, ses taches mouillées sur mon lit. J'avais jusqu'alors passé 26 ans d'existence sans jamais avoir dû y faire face. Je repensais alors à cette question souvent posée pour inciter les gens à sortir de leur zone de confort. Quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Ma réponse était « aujourd'hui ». J'avais envie de chanter, de danser, de crier, de téléphoner pour dire « Maman, j'ai éjaculé !» Reprenant mes esprits, je me suis rendu compte que ce n'était pas le genre de choses qu'on partageait et je ne savais pas quoi faire de toute cette excitation, qui n'était plus très sexuelle pour le coup. Est-ce que toutes les vulves seraient-elles donc capables de cette prouesse où je faisais partie des lucky few, ces vulves chanceuses qui éclaboussent ? Enfin chanceuses, je pense évidemment à toutes celles et ceux pour qui ce n'est pas une chance, qui vivent dans la honte, qui doivent se retenir ou parfois en gérer les conséquences en termes de lessive de draps répétitives. Oui, je me sentais chanceuse parce que j'étais surtout curieuse et que je rêvais que cela m'arrive au moins une fois. Je repensais à cette histoire que l'on me racontait sans cesse en secondaire, d'une fille qui devait sécher ses draps aux sèche-cheveux pour ne pas se faire griller par ses parents. Un faux ou un tox, cette histoire était en tout cas assez cocasse. Alors est-ce que vous, les filles, on vous racontait des histoires un peu mythiques, taboues là-dessus ?
Alors moi, j'ai peut-être pas d'histoire en tête, même carrément pas, mais en tout cas, la femme fontaine, je crois que c'est un peu un truc cliché, mais en mode... Ah, les femmes fontaines. Enfin voilà quoi, genre un truc un peu mythique.
Moi aussi, pas d'histoire particulière, mais cette figure de la femme fontaine, je l'ai quand même pas mal entendue par les garçons aussi. C'était toujours quelque chose de très sale et honteux.
Oui, je pense que ça a fasciné beaucoup de gens en tout cas. Alors, après avoir cru m'être fait dessus, car oui, c'est vraiment la sensation première que j'ai eue, qui m'a d'ailleurs causé d'essayer de me contracter pour arrêter le flux, j'ai été chercher un peu des informations qui, j'espère, instruiront nos auditeurs et auditrices, qui sont curieux, j'espère. Souvent confondu par de l'urine, ce liquide précieux s'écoule en effet depuis l'urètre et provient de la vessie. Mais alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas du pipi ? Alors, faute de vulgarisation, on va parler un peu plus scientifique ici. L'éjaculat, donc le liquide, qui vient de l'éjaculation, proviendrait de deux endroits. de un des glandes para-urétrales, qui sont aussi appelées glandes de Skene, qui se trouvent le long du canal urinaire et qui émettent un liquide assez limpide en plus ou moins petite quantité. Et donc, ce liquide ne passe pas par la vessie, mais par juste le canal urinaire, donc par la faim. Mais il y a une deuxième sécrétion, la sécrétion vésicale, qui est créée par la stimulation de la vessie. Et ça provoque un remplissage rapide et avec ce liquide qui serait proche de la composition du sperme, selon Wikipédia. Donc, ce serait comme du sperme, mais avec les spermatozoïdes en moins. Donc, l'éjaculation proviendrait alors de l'un, de l'autre ou d'une combinaison des deux. Il semblerait que 75% des femmes expulsent un liquide lors de l'orgasme, mais la sécrétion est souvent en petite quantité et donc on ne s'en aperçoit pas, nageant sûrement déjà dans un océan de cyprine. D'autres peuvent avoir un véritable jaillissement allant jusqu'à 300 ml. L'éjaculation peut être soit un jet puissant, soit simplement un écoulement lent. Alors, cette éjaculation peut être vue comme super excitante pour certains, super gênante pour d'autres, et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait en parler, et en parler aussi de manière décomplexée. Alors, je me demandais, les filles, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ?
Moi, jamais, jamais. Enfin, en tout cas, je m'en suis pas rendu compte, quoi.
C'est intéressant que tu dises que beaucoup de femmes éjaculent sans le savoir, donc il y a des petites quantités qui sont expulsées. Donc je pense que ça m'est déjà arrivé, mais en minuscule quantité. Et donc je n'ai pas encore non plus cet effet de fontaine, même si j'aimerais bien y arriver un jour.
Moi, je pense que ça m'arrive parfois un peu en petite quantité, comme tu dis. Mm-hmm. Et je pense que ça m'est arrivé une fois, mais je me masturbais. Et ben voilà, du coup, c'était un peu... je me suis dit, ah, ça y est. Ça m'est arrivé aussi, j'étais un peu fière. Mais en même temps, je ne suis pas sûre, quoi.
Mais j'ai l'impression, pour en avoir parlé un peu autour de moi, que les gens ne sont jamais sûrs si c'est bien ça, ou s'ils se sont fait pipi dessus, ou si c'est juste de la cyprine. Et donc, les gens ne sont pas... Mais je pense qu'au final, s'il y a du liquide qui est sorti comme ça, ben voilà, il faut...
Je trouve que justement, c'est chouette un peu cette ambiguïté, qu'on ne sait pas exactement que c'est un mélange de différents liquides, que ça dépend des femmes, que donc... Cette ambiguïté, au final, c'est plutôt chouette.
Oui, et je pense que en fait, beaucoup de femmes ont éjaculé et ne le savent pas, parce que c'est juste le premier du coup liquide dont je parlais, qui vient des glandes de Skene, qui lui est en plus petite quantité. Et ça, je pense que beaucoup de femmes l'ont déjà eu.
Et on peut poser une petite question ?
Dis-moi.
Moi, j'ai deux petites questions. Du coup... Wikipédia ou toi dans tes recherches, est-ce que toutes les femmes éjaculent du coup ? Enfin, parce que ça, c'est, moi je me disais que c'était un truc qui peut arriver à certaines mais pas toutes. Et puis le deuxième truc, c'est que j'ai lu il n'y a pas longtemps que tu ne pouvais qu'éjaculer quand, au moment où la pénétration s'en va. Enfin, une espèce de. Tu vois, comme s'il y avait une espèce de pression avec l'objet ou le pénis qui rentre dans le vagin à ce moment-là et qu'au moment de l'enlever, c'est là que ça sort.
Alors écoute, ces questions sont assez précises et j'avoue que ça m'est arrivé, mais je ne suis pas encore une experte. Mais en tout cas, ce que Wikipédia dit, c'est que c'est environ 75% des femmes. Mais après, je pense que c'est une porte qui peut s'ouvrir pour 100% des femmes. Il faut juste peut-être... c'est peut-être un travail de toute une vie, si tu vois ce que je veux dire. Et aussi, le deuxième liquide est provoqué par, du coup, la stimulation de la vessie. Donc, c'est clairement soit via la pénétration qui tape, on va dire, contre la vessie, ou alors par la contraction. Mais je ne sais pas si il faut absolument être dehors pour que ça sorte. Parce qu'il me semble que si ça sort par l'urètre, il n'y a pas forcément besoin. Enfin, voilà, mais je ne suis pas encore une experte. Alors...
Non, mais merci, tu réponds déjà.
Petites infos utiles. Pour toutes les personnes qui ont envie de se mettre à l'éjaculation, alors, ils pourraient muscler leur plancher pelvien via des exercices de contraction et de respiration. Et cela peut vous aider à atteindre l'éjaculation, voire même à la contrôler. Alors, pour ma petite anecdote, mon éjaculation est arrivée après avoir bossé mon plancher pelvien pendant 2 mois. Alors, je le recommande à tout le monde car cela peut amener plus de contractions musculaires vaginales durant l'orgasme et donc vous apporter de plus gros orgasmes. Pour cela, pardon, on peut utiliser des boules de Kegel ou alors simplement des exercices juste avec la respiration et la contraction du plancher pelvien. Est-ce que ça vous tente un peu de gym de plancher pelvien?
Carrément.
Tous les matins, 5 minutes.
Ouais.
Mais voilà, j'encourage tout le monde pour de plus beaux orgasmes.
Merci beaucoup, Léa.
Ouais, et n'hésitez pas à nous faire des retours. Alors, avant de laisser la parole à Bissy, on va faire une petite pause musicale et on va écouter Girly avec une chanson qui s'appelle Hot Mess.
Songs.
I'm doing
Vous écoutez l'équipe d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4 et nos coups de cœur et coups de gueule de 2019. On écoute maintenant la chronique de Bissy qui va nous parler pour commencer d'un livre qui lui a beaucoup plu. À toi Bissy.
Bonjour et merci beaucoup Elsa. Alors 2019 ça a été une année remplie d'énergie féministe et j'aimerais vous partager mon coup de cœur. Il s'agit du livre La Révolution féministe d'Aurore Cuchelin. Aurore, c'est une militante féministe et chercheuse en sociaux. Et dans ce super petit livre de seulement 160 pages, elle nous fait un état des lieux féministes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle retrace dans des mots simples et à l'appui de plein d'exemples les différents mouvements féministes qu'il y a eu depuis le 19e siècle. Et elle parle en termes de vagues féministes. Donc elle dit, au fur et à mesure, il y a eu différents mouvements féministes qu'on peut classer par vagues. Chaque vague est centrée sur des revendications spécifiques et chaque vague utilise certaines stratégies. Chaque vague est aussi en continuation avec la précédente, mais également en rupture avec la vague précédente. Parler en termes de vagues, ça permet également d'insister sur le caractère international du mouvement féministe qui prend le continent, les continents, par vagues. Alors je vais vous retracer vite fait les vagues pour insister sur la dernière vague dans laquelle on se trouve actuellement. La première vague débute à la fin du 19e, début du 20e siècle et elle porte surtout sur les droits politiques dont le plus important était la lutte des femmes pour pouvoir voter. La deuxième vague occupe la deuxième moitié du 20e siècle et elle est axée sur les droits contraceptifs et le droit à l'avortement. La troisième vague qui commence dans les années 80 environ est appelée la vague intersectionnelle. Elle remet au centre de son combat les femmes racisées et tente de prendre en compte différents systèmes de domination comme le racisme, le sexisme et le classisme. Alors aujourd'hui, Aurore, elle considère que nous sommes déjà situés dans la quatrième vague féministe, qui est un mouvement féministe qui, évidemment, a beaucoup hérité de cette troisième vague. Donc, c'est un mouvement féministe qui se veut inclusif et représentatif de la diversité des femmes qui le composent. C'est pour ça que désormais, on préfère parler de féminisme au pluriel pour enseigner de la diversité des courants et mouvements féministes. Les revendications les plus ardentes de cette quatrième vague sont la lutte contre les violences faites aux femmes et les féminicides, mais également la lutte pour l'avortement, qui est remise en cause dans beaucoup de pays. Ce qui interpelle est que ces mouvements féministes sont portés par les pays de l'Amérique latine, dans lesquels des mobilisations de masse contre les féminicides et les violences faites aux femmes ont porté des milliers et des milliers de manifestants dans la rue. Le mouvement est appelé « Ni una más », « Ni une de plus », et ce slogan il est repris dans de nombreuses manifestations en Europe et en Amérique du Nord. Cette nouvelle vague féministe prend donc un caractère international, que ce soit le Women's March contre Donald Trump aux États-Unis, ou en Pologne les manifestations pour l'avortement, ou en Inde les manifestations contre les viols et les violences faites aux femmes. Le mouvement MeToo s'inscrit aussi dans cette quatrième vague. Alors ce qui rend ces mobilisations féministes aussi exceptionnelles, c'est leur position critique à l'égard du système capitaliste. Les mouvements féministes nouent des liens explicites avec le mouvement ouvrier et utilisent des outils comme la grève des femmes. La grève des femmes, elle permet non seulement de révéler le caractère sexiste et raciste du système néolibéral, mais également de révéler la trame économique du système patriarcal. La question du travail et de l'économie sont donc au cœur de cette quatrième vague. Finalement, l'autrice considère que la libération des femmes doit d'office être révolutionnaire. C'est ce que j'apprécie le plus dans cet ouvrage, c'est le lien entre économie et droits de femme qu'Aurore fait. Le capitalisme s'appuie sur le patriarcat pour se développer, mais le capitalisme a également été modelé par le patriarcat. Les deux sont indissociables. L'État est l'instrument central de ces dominations et n'est pas neutre. Il légitime, par la loi ou par la violence, les violences et les inégalités que nous vivons. C'est donc seulement par la révolution, une véritable révolution, que nous pouvons nous libérer. Aurore résume donc bien la vision du féminisme que je défends, et voilà pourquoi c'est mon coup de cœur 2019, pour un féminisme inclusif, pluriel, anticapitaliste, intersectionnel, décolonial et critique à l'égard des institutions et de l'État. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez les filles?
Bien, moi je suis en tout cas d'accord, parce que je pense que les femmes ne peuvent pas être libres dans un système qui les fait travailler dans des conditions horribles. Enfin, évidemment, ça vaut pour les hommes, les personnes racisées. Le capitalisme écrase des gens, et tant qu'on veut la liberté et le développement de tout un chacun, on ne peut pas commencer dans ce système. Et il y a aussi beaucoup de problèmes dans le capitalisme avec le travail des femmes qui ont souvent des boulots un peu moins valorisants et c'est bien que tout ça ressorte. On va dire que le mouvement féministe bouge un peu tout ça parce que avant c'était que des questions séparées et en tout cas maintenant on peut faire le lien.
Ouais, il y a une vision beaucoup plus globale.
J'avais une question parce que du coup elle fait le lien donc entre féminisme, anticapitalisme. Est-ce qu'elle le fait aussi avec l'écoféminisme et le fait que le capitalisme a servi à la fois le corps des femmes, les femmes et la nature?
Alors elle en parle très très vite fait de l'écoféminisme si je me souviens bien. Et donc elle parle, oui, du capitalisme, à quel point il influence la nature, le corps des femmes, la division du travail. Donc tout ça, c'est lié pour elle. Par exemple, le travail domestique, elle en parle beaucoup. Elle parle moins de l'écoféminisme, mais elle le mentionne. Donc oui, c'est très clairement lié.
Parce que je trouve que c'est un type de féminisme dont on parle pas mal en ce moment, et justement dans les luttes en Amérique latine, c'est super fort aussi.
Ouais, c'est vrai que quand elle parle de l'Amérique latine, elle introduit, elle explique les mouvements féministes qui viennent de l'Amérique latine, avec la particularité que ces mouvements sont liés aux luttes des femmes indigènes, qui, elles, luttent surtout pour une exploitation plus juste de la nature, pour un droit sur leur terre. Donc le lien, surtout en Amérique latine, il est là.
Moi, je voulais vous dire de ne pas oublier que, chers auditeurs, qu'on va avoir une émission sur l'écoféminisme et que donc on va aborder tous ces sujets bien plus en profondeur.
Tout à fait, et ça commence le mois prochain. Et juste pour rebondir par rapport au capitalisme, on voit aussi, je pense notamment à la France avec les grèves qu'il y a énormément en ce moment, c'est qu'au niveau des réformes économiques, et donc le capitalisme, et donc le libéralisme, ou le néolibéralisme, comme on l'appelle en tout cas, c'est les femmes qui souvent sont touchées, alors je ne sais pas si elles sont touchées les premières, mais en tout cas qui le sont énormément. Et j'ai vu cette semaine qu'en Belgique aussi, on veut fermer un certain nombre de maternités, et que ça, c'est quelque chose d'assez dangereux et d'assez inquiétant, parce que c'est encore les femmes qui vont en souffrir. Et pourquoi on ferme les maternités? Parce qu'elles ne sont pas efficientes et qu'elles ne sont pas assez rentables. Enfin, voilà un des liens.
C'est assez choquant en tout cas. Et je pense qu'Elsa, toi aussi, tu voulais nous parler de l'Amérique latine.
Oui, donc moi, c'est un coup de cœur pour le féminisme qu'il y a dans les luttes sociales, qu'il y a eu dans les luttes sociales qui se sont passées en 2019, notamment au Chili. Donc je vais vous parler surtout je vais vous parler de ce pays-là, même si bien sûr donc il y a eu d'autres mouvements sociaux super importants dans le monde et aussi en Amérique latine, donc aussi par exemple en Bolivie, en Colombie, en Équateur. Voilà, donc au Chili, le mouvement social, il s'est déclenché le 18 octobre dernier. En fait, c'est une lutte qui s'est très vite étendue ensuite à tout le reste de la société, parce que ça a vraiment été une critique globale en fait du système dans lequel et le pays. Donc juste pour faire un petit contexte sur le pays et pourquoi en fait ces luttes-là. Donc depuis la dictature de Pinochet, donc il est arrivé au pouvoir avec un coup d'État contre Salvador Allende, son gouvernement socialiste. Donc c'était en 73. Et donc il y a eu une dictature jusqu'en 91. Et ensuite, en fait, donc on disait ouais super, il y a la démocratie, mais en fait les mêmes qui gouvernaient pendant la dictature sont à peu près restés au pouvoir, et surtout leurs idées sont clairement restées au pouvoir avec 30 ans qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui de néolibéralisme très fort, avec une croissance économique certes, mais pas du tout répartie dans la société, avec une élite en gros qui s'en met plein les poches et des privatisations de à peu près tout, donc ce soit la santé, l'éducation, l'eau, enfin tout est privé et en gros si t'es pas riche c'est vraiment très très compliqué. Pour vous dire, en fait le salaire moyen c'est de 600 euros à peu près, et alors que le coût de la vie est quasi aussi élevé qu'en Belgique par exemple. Donc voilà, déjà je voulais savoir si vous aviez, enfin quelles images vous aviez de ce mouvement-là au Chili, enfin, si vous aviez lu des trucs, enfin, comment vous le voyez, parce que souvent on dit juste, enfin, on dit c'est des contestations, mais parfois c'est pas trop le contexte politique ou enfin là.
Ben, pour moi, le Chili, un peu ce que tu viens de redire, c'est un peu le terreau comme ça, du libéralisme. Hein. Enfin, on sait comment les États-Unis, ils ont, comme tu l'as dit, propagé ça à partir de cet endroit-là. Du coup, moi, je trouve ça impressionnant et hyper positif que ça se soulève comme ça. Après, ce que j'ai aussi entendu, et donc les réductions imposées par le Fonds monétaire international et tout ça, etc. Mais aussi, j'ai entendu beaucoup de violence sur les faites sur les femmes, en fait.
Ouais, moi je vais en parler juste après du coup. Donc en fait, ouais, sur donc le sur le donc pourquoi en fait d'où est né en fait le mouvement en fait c'est le prix du ticket de métro qui a augmenté parce que c'était super cher à Santiago et en fait c'est les élèves de secondaire qui ont vraiment commencé la révolte en fait en occupant les métros et en fait la répression a été super forte en fait directement en fait donc ce qui a mis vraiment le feu aux poudres face à une répression énorme avec directement les chars, les CRS et tout et en face donc il y a eu des manifestations qui ont été énormes donc par exemple la plus grosse a été le 25 octobre où il y a eu 1,2 million de personnes dans le pays sur 15 millions d'habitants donc ça fait quand même vraiment beaucoup de monde et donc justement les femmes et les féministes dans tout ça. Donc juste, je refais maintenant un petit contexte sur le féminisme au Chili. Donc comme on a dit, le féminisme est super fort en Amérique latine. Donc par exemple en Argentine, c'est vraiment super fort, au Mexique aussi. Comme tu as dit, avec des mouvements comme Ni Una Menos. Et au Chili, déjà en fait, au début de l'année, le 8 mars 2019, il y avait eu une très très grosse manifestation qui avait réuni 300 000 personnes. À Santiago, donc déjà il y avait vraiment un truc super fort, et aussi dans comme on a dit tout à l'heure, en fait il y a aussi tous les mouvements des peuples originaires, avec par exemple les Mapuches où les femmes sont super puissantes là-dedans pour défendre leur territoire, et par exemple dans cette culture-là, il y a les Machi, en fait c'est, je sais pas si vous en avez parlé pour les sorcières, mais en fait c'est les femmes qui dans chaque communauté, c'est elles qui ont les connaissances, par exemple en médecine et tout, et c'est des guides spirituels aussi. Voilà, donc ça rentre aussi dans tout ce contexte. Et donc dans le mouvement social, donc les femmes sont vraiment super importantes, que ce soit dans les manifestations. Donc, par exemple, elles sont en première ligne comme les hommes, quoi. Dans les manifestations au Chili, il y a beaucoup de danse, de musique. Donc il y a beaucoup de femmes qui dansent avec des grands vêtements, enfin des trucs super beaux. Des slogans assez forts et tout. Et aussi quelque chose qui est assez notable, c'est dans les manifestations, vraiment le corps comme lieu de lutte. Donc, il y a beaucoup de femmes donc, qui y vont sans soutien-gorge, qui vont avec des poils sous les bras. Et il y a aussi beaucoup qui vont seins nus avec des trucs écrits dessus. Et là, j'avais aussi une question pour vous. Parce que moi, en fait, quand je voyais les femmes, en fait, j'étais... Bon, après, je suis peut-être super ignorante. Mais en fait, j'étais un peu dubitative parce que je me disais, elles sont toutes, on dirait, des top modèles. Elles sont toutes bien blondes, toutes jolies. Et je me disais, est-ce que c'est aujourd'hui où on voit déjà des corps de femmes partout, est-ce que c'est comme ça qu'il faut lutter? Mais du coup, sur les Chiliennes qui font ça, ça m'a un peu questionnée. Et voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez de ça.
Alors moi, je pense que le corps des personnes est un outil de lutte hyper important et que beaucoup de gens utilisent même au quotidien dans toutes sortes de situations, le simple fait de se teindre les cheveux, d'avoir des piercings ou pas, de mettre tel vêtement ou pas, de jouer avec les expressions de genre, les styles, c'est quelque chose qu'on fait presque tous souvent dans notre vie quotidienne et dans la manifestation. Donc, je pense aussi que c'est un instrument vraiment très très puissant, surtout les femmes topless, donc les femmes dont on voit les seins, parce qu'on se rend compte à quel point ça choque encore et à quel point c'est mal vu, à quel point c'est sexualisé. Et oui, oui, moi je trouve ça super. Et je trouve aussi qu'on voit de plus en plus de corps quand même diversifiés, parce que je pense que pas beaucoup de gens ont peut-être le courage de le faire, et c'est peut-être les personnes avec des corps plus, qui correspondent plus aux normes et qui ont peut-être commencé à le faire, mais qu'en tout cas aujourd'hui je vois quand même plein de corps qui sortent de la norme et qui se dévoilent, et voilà, c'est très beau.
Moi aussi j'avais un petit commentaire qui rejoint fort le commentaire de Bissi. C'est que les gens se posent souvent la question de est-ce que c'est comme ça qu'il faut lutter en montrant les corps, etc. En insinuant presque dans la question que c'est un peu une façon extrême de lutter. Alors que pourtant, on voit des corps d'hommes torse nu toute la journée. Il suffit d'aller dans les villes côtières ou se balader dans Bruxelles un jour où il fait chaud. Et pourtant, lorsqu'une femme le fait, on pourrait voir ça comme un espèce de revendications beaucoup trop radicales, alors que le corps n'est pas un objet sexuel, c'est les gens qui nous le sexualisent. Le corps n'a rien de choquant en soi, et donc que les femmes viennent avec des slogans écrits sur le torse, ça ne me choque aucunement, et je suis tout à fait d'accord que le corps est politique, qu'il doit être réapproprié, et que du coup, les féministes qui condamneraient ça de manière plus radicale, en disant que c'est quelque chose de radical, je veux dire, en tout cas, font part d'un féminisme qui serait vraiment réservé qu'à certaines personnes, et qui... pour moi, ne serait pas un vrai féminisme à l'égard de toutes les femmes et personnes en général. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Ok, ben, merci beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'enrichit dans ma réflexion là-dessus. Et voilà, et donc, comme tu as dit, Julie, aussi, dans ce mouvement social, en fait, les femmes sont aussi particulièrement victimes. Donc, bon, il y a eu énormément... d'abus, de torture et tout envers hommes et femmes, mais particulièrement les femmes aussi ont vécu notamment des viols et des abus sexuels de la part de la police. Enfin, c'est vraiment trash, quoi. Et donc, par exemple, il y a un rapport d'Amnesty International qui disait, donc c'était juste en un peu plus d'un mois au début, il y avait déjà eu 70 délits sexuels commis par des fonctionnaires, donc notamment des policiers. Donc des viols, des abus sexuels, des nudités forcées, des menaces sexuelles aussi. Donc il y a au moins eu une femme qui est tombée enceinte après avoir été violée. En plus, c'est hyper compliqué d'avorter au Chili encore. Et encore récemment, alors qu'il y a eu plein d'actes qui ont été critiqués et qui ont été montrés du doigt, il y a une jeune fille qui a été dénudée et interrogée nue dans un commissariat. Voilà, donc enfin, elles sont vraiment encore plus victimes de cette répression-là. Et ce n'est pas des cas isolés. Et donc, c'est vraiment des violences systémiques qui sont organisées donc, par la police, qui sont validées aussi par l'État et qui sont en partie ignorées par la justice. Et donc, en fait, en gros, c'est mater ces femmes qui deviennent puissantes, quoi. Et justement, c'est ce que dénonce le collectif Lastesis dans les paroles et la chorégraphie de Un Violador en Tu Camino. Donc c'était le 20 novembre que la Corée a été filmée pour la première fois. Et ensuite, le collectif a lancé un appel pour que cette chorégraphie soit en fait répliquée dans le monde. Et c'est ce qui a été fait. Donc soit en Belgique, en France, en Inde, en Turquie, au Mexique, aux États-Unis. Enfin, ça les a clairement dépassés. Et donc, par exemple, voilà, sur on va le passer après, mais dans les paroles, donc il y a par exemple la faute, c'est pas ma faute, ni le lieu où j'étais, ni comment j'étais habillée. Le violeur, c'est toi. C'est les policiers, c'est les juges, c'est l'État, c'est le président, et c'est l'État oppresseur est un mâle violeur, en gros. Voilà, c'est pour montrer vraiment que c'est un truc systémique. Et en fait, c'est hyper important ce moment où il y a eu ce buzz, entre guillemets, parce qu'en fait, le mouvement social était un petit peu en train de redescendre. Et en fait, c'est vraiment ça qui a relancé le mouvement social. Donc, en fait, vraiment les femmes qui sont protagonistes et qui donnent le rythme du mouvement social et qui s'auto-organisent aussi. Donc aujourd'hui, depuis, il y a eu un... Enfin, pas avec la Stécis, mais dans le cadre du mouvement, il y a eu un processus institutionnel qui a été engagé pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Parce qu'en fait, dans la constitution actuelle, c'est une constitution qui a été faite pendant la dictature et qui a vraiment en son sein le néolibéralisme. Enfin, en gros, c'est écrit dans la constitution, quoi. Je ne sais pas si c'est écrit texto, mais voilà. Et du coup, c'est vraiment changé cette constitution. En parallèle, il y a aussi plein de conseils citoyens dans des communes, dans des villages. Enfin, vraiment, c'est assez ouf. Et les femmes, justement, aussi s'organisent énormément. Par exemple, il y a de très nombreux collectifs féministes qui se rassemblent et qui s'unissent pour faire front et établir des positions communes et s'organiser. Et donc, par exemple, le week-end du 11 janvier dernier, il y a eu la deuxième rencontre plurinationale de celles qui luttent, donc c'est le nom de la rencontre, où il y a eu 3000 féministes qui étaient présentes. Voilà, elles faisaient aussi des tas d'ateliers de danse, de chant et tout. Et aussi, elles ont établi une position politique claire, commune, un plan de lutte et leur prochaine grosse date, donc c'est le 8 mars, où elles vont organiser une grève générale féministe dont tu parlais, Bissi. Voilà, donc c'est vraiment un mouvement qui est puissant. Juste pour vous dire aussi, le féminisme au Chili, c'est vraiment massif, en fait. Les femmes et encore plus les jeunes, presque tout le monde est féministe. C'est à la mode, quoi, maintenant. Et voilà, je pense qu'il y a quand même une vraie révolution qui se passe. Quelqu'un que je connais qui vit là-bas, un mec, il disait que... Ouais, maintenant, il n'a vraiment plus rien dire. en plus, il fait un peu la victime, mais bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, y a vraiment un truc qui change là-dessus. Et je trouve que c'est un beau message d'espoir que donne le Chili. Il y a quand même un modèle, même si ce n'est pas parfait, bien sûr, mais pour le reste du monde, quoi. Et j'ai une dernière question. Je ne sais pas si vous savez, du coup, pour le 8 mars à Bruxelles, est-ce qu'il y a des trucs qui sont prévus? Enfin, est-ce qu'il y a des grèves, je sais pas.
Ben, en tout cas, oui. Donc, il y a l'idée de faire la grève le 8 mars, mais c'est un dimanche. Donc, ah oui. Il y a les syndicats qui sont en train de discuter pour voir s'ils déposent un préavis de grève le 9, donc le lundi 9, mais il y a des chances que ça se passe. Et ensuite, le rendez-vous, et donc Vie Féminine y sera, c'est 14h, place de la Monnaie, cette fois. Donc voilà, pour le moment, le programme n'est pas encore fixé, mais donc 14h, place de la Monnaie, le dimanche 8 mars. Et voilà, il y aura énormément de groupes féministes, il y aura aussi la Ligue des travailleuses sans papiers, voilà, donc voilà pour le 8 mars.
Et je sais qu'il y a plein de groupes indépendants qui font des happenings et des rassemblements un peu partout. Je suppose qu'en googlant on peut trouver, mais il n'y a pas que la grosse manifestation officielle. Voilà, il y a des gens qui font des choses un peu partout, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que Bruxelles. Et que du coup des gens ne se rendent pas sur Bruxelles, et que je pense dans beaucoup de villes on peut retrouver des happenings.
Ok. Ah oui. Et donc maintenant justement on va vous passer un extrait de la Corée et chant du coup de Un violador en tu camino.
Et du coup c'est une capture YouTube que vous pouvez retrouver évidemment et aller voir la chorégraphie parce que c'est vraiment mieux avec.
Thank you.
Cette chanson, elle me touche particulièrement parce qu'elle dit « Le violeur, c'est toi ». Et je me dis, mais c'est tellement vrai dans cette société quand on voit le nombre de viols qui sont commis. Ça veut dire que les violeurs, ce sont nos frères, nos amis, nos pères, nos oncles, nos pères. Enfin, ça peut être vraiment... On connaît d'office un violeur vu qu'on connaît beaucoup de violés, malheureusement.
Surtout que là, je me permets juste de rappeler quelques chiffres, mais on dit souvent aussi que le violeur, c'est l'inconnu tard le soir dans la rue. Hein, et encore mieux, s'il est étranger, ça colle encore plus. Sauf qu'en fait, ironiquement, je dis ça, sauf qu'en fait, on sait bien que dans plus de 80% des cas, on connaît l'agresseur, comme tu viens de le dire. Et surtout, c'est pas dans l'espace public. En fait, c'est chez nous, c'est chez elles que les femmes sont le plus en danger, quoi.
Et même la plupart, c'est par leurs compagnons. Donc voilà, c'est des paroles fortes qui sont vraies. Le violeur, c'est un peu tout le monde. Donc vous êtes toujours avec l'équipe d'Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4 et on continue avec nos coups de cœur et les coups de gueule de 2019 de nos chroniqueuses. Bissi, tu veux nous parler de la Pink Tax. C'est quoi la Pink Tax ?
La quoi ?
Alors la Pink Tax, c'est la différence de prix entre les produits et les services étiquetés pour femmes et ceux étiquetés pour hommes au détriment des consommatrices. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a des produits désignés femmes, soit parce qu'elles sont pour les besoins de femmes ou soit parce qu'elles ont une esthétique plus féminine, et des produits d'hommes, et les produits de femmes coûtent plus cher que les produits des hommes. Alors la Pink Tax, elle existe sur de nombreux produits, mais elle est la plus flagrante sur les protections hygiéniques, donc les bandes, les tampons, les cups, tout ce qui touche aux règles. Et d'autres produits de corps surtout, donc les shampoings, les rasoirs, les déodorants, etc. Alors, on a une bonne nouvelle qui nous provient de l'Allemagne, qui a joint d'autres pays au monde. Et l'Allemagne a donc enfin écouté les revendications de féministes qui demandaient une baisse de la taxe sur les produits de règles. Donc une baisse de la Pink Tax, qui était à 19% et qui est baissée à 7% pour cette année, à partir de cette année de 2020. En fait, donc, les produits hygiéniques sont donc désormais considérés comme des produits essentiels, au même titre que les produits alimentaires, les livres, certains transports en commun. C'est donc un grand pas pour le portefeuille et pour toutes les personnes qui doivent s'acheter des protections hygiéniques, et un pas pour l'égalité.
Alors Léa, toi tu voulais... Merci Bissi. Alors Léa, toi tu avais deux coups de gueule aussi à nous partager, et on va aller dans un autre pays encore et même un autre continent.
Oui, alors je rassemble coups de cœur et coups de gueule dans cette chronique car je vais parler de manifestations à Hong Kong, mais aussi plus particulièrement du rôle des femmes dans celle-ci. Alors beaucoup de gens ont déjà pu entendre quelques nouvelles d'Hong Kong. Par bribes depuis cet été, des manifestations continuelles contre le gouvernement. Les manifestants demandent une réelle démocratie où ils pourraient élire leur gouverneur et demandent que le parti communiste de Xi Jinping arrête de tirer les ficelles de leur politique censée être indépendante. Le problème, c'est que les répressions policières ont été très violentes dès le début, malgré des démonstrations pacifiques. Et depuis, les violences policières n'ont fait que s'intensifier, dans ce qui ressemble maintenant parfois à une vraie guerre entre les manifestants et les policiers. Cette guerre est clairement à armes inégales, mais les manifestants de Hong Kong viennent de plus en plus lourdement protégés aux manifestations avec casques, masques à gaz, lunettes de protection, etc. La population est maintenant divisée en deux, les pro-gouvernements et les pro-démocratie. Les pro-gouvernements soutiennent donc le gouvernement, évidemment, mais aussi la police, et les pro-démocratie soutiennent donc tous les mouvements de protestation. Mais que se passe-t-il spécialement pour les femmes ? Alors, malheureusement, beaucoup de cas ont été dénoncés. Les policiers arrachent leurs vêtements lors d'arrestations, les laissant dénudées en public. Elles se font toucher les fesses et les seins alors qu'elles sont en situation de vulnérabilité car elles sont menottées ou emmenées par la police. Il y a eu des cas vérifiés de viol dans les stations de police. Une jeune femme a aussi dû se faire avorter des suites d'un viol par un policier. Suite à cela, les femmes qui dénonçaient les violences qu'elles avaient subies avaient leurs informations personnelles diffusées en ligne et étaient discréditées par des anonymes sur les réseaux sociaux. Donc ce seraient probablement des personnes qui voulaient protéger les intérêts de la police. Des rumeurs ont été même propagées par des membres du gouvernement que beaucoup de femmes offraient du sexe gratuitement aux manifestants pour les encourager à la révolte. Tout cela a créé un mouvement, une vague hashtag MeToo à Hong Kong avec sa variante hashtag ProtestToo, qui a rassemblé des milliers de personnes dans le centre de Hong Kong avec ce hashtag écrit rouge à lèvres sur leurs bras. La dénonciation du sexisme et de la violence sexuelle au sein du mouvement de manifestants a ouvert les esprits au sein de la communauté hongkongaise sur ce que les femmes subissent au quotidien. Et beaucoup d'hommes qui, au départ, avaient seulement des revendications politiques, se sont vus revendiquer des demandes de protection des femmes contre ces violences. Le débat est donc enfin ouvert dans la société. Aussi, beaucoup de femmes participant à la manifestation en tant que frontliners, les manifestants de premier rang, présents très souvent et qui prennent beaucoup de risques, ont aidé à changer la vision de la femme hongkongaise, qui est maintenant vue comme une femme forte et engagée. Donc coup de gueule pour toutes ces violences subies, mais gros coup de cœur pour la réaction à ces violences et surtout le changement que ça a inscrit dans l'esprit des Hongkongais pro-démocratie. Pour finir cette chronique, je vais enchaîner sur une musique. Cette musique, j'ai un peu envie de l'introduire parce qu'elle est, elle reste dans le thème de la violence contre la femme. Et donc c'est l'artiste Ziani. Cet artiste a été abusé sexuellement par le chanteur du groupe The Antwoord, donc le célèbre Ninja. Sa bataille a été de pouvoir le dénoncer car elle a longtemps été censurée des grandes plateformes à cause des équipes légales de The Antwoord. Maintenant, des articles et vidéos commencent à fuiter sur leur comportement abusif et ils ont même annulé leur tournée. Ziani, dans cette chanson, explique en détail tous les abus de torture et viol qu'elle a subis par Ninja. Et dans le clip, elle montre même les captures d'écran des messages envoyés, des mails envoyés par Ninja à Ziani. Donc, écoutez les paroles si vous comprenez et vous allez voir à quel point elle dénonce ces Ziani The Question. You say you fucking pick me cause I look like your daughter 16. You're disgusting, pedophile cunt. But you're glad that I'm finally gushing. So private schoolboy, you're running. You jack white trash gangster style. But I come from that nightmare, you fake fuck. I'm about to pay the price, bye bye your locks up. You shared those photos, one got set with one cunt. Emailed them to call me, that was a crime cunt. Sex offending arse cup, Australia, get locked up. What's that sound? Sirens with my boys on your block cunt. This ain't no mean to bitch. Beef and I'll beat you for the way you treated me. I'll expose and defeat you. No, woe is me, woe is you, your voodoo is broken. The dark force you invoke, let's vote in coming back to haunt you. And the questions finally asked, who will choke, cunt? Ninja! Choke! Go fuck yourself, you landy. Give the raddies candy and I'll be eating out your hands. I don't give a fuck, you spent a decade with the man. Getting brainwashed by this man. You're still playing out his plan and grooming up his fucking fans. You contacted me and I bet that he told you to. Renfield, just the way that he molded you. He trafficked me to Africa, that was your bright idea. Filled me with fright, then the demon appeared. The fear, only 20 years to find out I'm deceived. The nice men from the internet's not who I came to meet. I never told what happened, cause the fear of disbelief. For years my brain could not conceive what happened to me. Torture, ritual, candle, visual. An innocent girl and a sick individual. Torture, ritual, candle, visual. An innocent girl and a sick individual. You were not done yet, you would make me regret not buying your bullshit like the perfect pair. I suffered in silence, I did not complain. Sat back and watched on as you played your games. Go ahead and tell a story and deflect how you always do about the weird vegan fan that was so in love with you. You wrote sex about me, you wrote ugly boy about me. I wrote this about you, I think it's fair trade, dude. Ugly on the skin, but fucking uglier within. You claim your golden heart, but your heart is black as skin. Welcome to your life, I think I killed you in a past life. Just know that when you die, you know the demons up your ass. Eternal hell and torture. Hope it was worth the fame and fortune. You dumb motherfucker. Am I still your rainbow girl? Alors nous revoilà avec Elles en parlent encore sur Radio Panique 105.4. J'avais envie de dire une petite chose par rapport à toutes ces critiques et ces chroniques. Et en fait, le lien qu'on pouvait faire entre elles, c'est que malgré les différents continents, on voit au Chili, en Amérique latine, on le voit à Hong Kong, que les femmes sont victimes de viols par des policiers, par exemple, on voit que les institutions sont assez répressives envers les femmes et que la quatrième vague de mouvement féministe, comme nous disait Bissi, c'est que les femmes veulent en finir avec tout le système, ce système qui les oppresse. Et donc, je pense que avec les cultures qui changent et les gens qui se lèvent, toutes les institutions peuvent être remises en question et que, en effet, ça montre que malgré, dans tous les continents, on est obligé d'avoir un féminisme qui remet en question toutes les institutions.
Ouais, effectivement, et c'est ce qui se passe aussi avec le masculinisme qui revient en force et où on vient dire et vous les féministes, etc. Ben du coup, merci beaucoup. C'était vraiment des chouettes chroniques. On a appris plein de choses. C'est dommage que ça s'arrête là parce qu'on aurait bien aimé écouter encore des coups de cœur et des coups de gueule pour 2019. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous retrouver sur radiopanique.org et cette émission est à réécouter le premier vendredi de février. Alors, pour conclure et avant de vous laisser... Enfin, plutôt pas, on a déjà conclu, mais donc avant de vous laisser, on voudrait vous recommander quelques événements directement ce samedi soir ou dimanche. Donc, ce samedi, il y a le café coopératif La Vieille Chéchette à Saint-Gilles qui organise un focus sur Rojava, donc en diffusant le documentaire Kurdistan, La guerre des filles, de Mylène Saulois. Alors, la projection sera suivie d'un débat avec Eren Koc, activiste kurde de Belgique, et Arzu Demir, une journaliste ayant fui la Turquie après une condamnation à 6 ans de prison pour l'écriture d'ouvrages sur la question kurde. Ou alors, toujours dans l'actualité féministe du week-end, ce dimanche à 18h, il y a la guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? Donc ça, c'est un conte, et ça se passe au dimanche du conte. C'est un conte de Anne Deval et Fred Blanco de la compagnie CTA. Donc si vous n'avez jamais passé le cap d'aller enfin voir ou écouter un conte, courez-y, parce que pour avoir vu le conte précédent de Anne Deval, franchement, ça vaut le coup. C'est à 18h ce dimanche, au Centre culturel Bruegel, 1 F rue des Renards, à Bruxelles, et c'est à partir de 12 ans. Encore deux autres annonces. Donc ce mardi 28 janvier, donc à 10h Gare du Nord, il y a une manifestation nationale pour une sécurité sociale renforcée et justement financée qui aura lieu et c'est à l'appel de la FGTB. Et enfin, on avait fait une chronique sur le hip-hop en début d'année 2019 et en fait il y a Kazé dont on avait diffusé une chanson qui vient au Delta à Namur et c'est le samedi 8 février. Alors, c'est avec son projet collectif House Gang. Moi, je ne pourrais pas y aller, je suis trop tech, mais juste, ça va être trop bien. Alors voilà, merci à toutes, merci à vous de nous écouter et on se retrouve le samedi 22 février. D'ici là, prenez soin de vous.
Bye bye.
Ciao.
Bye. Thank you.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.